On va féliciter tous les vacanciers qui étudient la Torah, même en vacances que la Kavod. Le maître s'est écrit Hayom Azeh Nieta Le'am. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait preuve, n'est-ce pas, de volonté personnelle pour la Torah et les mitzvot, eh bien c'est là, n'est-ce pas, où elle est en train d'exprimer réellement sa réelle identité, son rapport réel par la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'occasion d'être en vacances, on choisit, n'est-ce pas, d'étudier la Torah, et bien c'est là, n'est-ce pas, où on fait preuve de ce qu'on est réellement. Alors surtout Chol Sheken, lorsque vous allez quitter les lieux de la yeshiva, alors lorsqu'on est livré à soi-même, on est en train de se fixer un programme pour l'étude de la Torah et la tefila et les mitzvot, c'est là, n'est-ce pas, où on est en train de vraiment de poser la réelle identité qui révèle réellement ce qu'on est. C'est-à-dire que lorsqu'on est entouré par une structure qui nous oblige, qui nous emporte, alors bon, c'est bien beau de faire les mitzvot, mais c'est pas toujours une preuve de ce qu'on est réellement. Alors que lorsqu'on est livré à soi-même et malgré tout on le fait, c'est une preuve de sa réelle identité. Donc, alors on va parler aujourd'hui du 15 Av, on avait commencé à parler déjà hier, de l'importance de ce jour qui s'appelle le 15 Av, qui n'est une fête, qui n'est pas connue assez, n'est-ce pas, dans la Torah. Alors on avait déjà dit que le 15 Av, tout d'abord, c'est 7 jours après Tisha B'Av, après le 9 Av. Parce qu'en effet, c'est écrit qu'à la fin des temps, le 9 Av sera une des fêtes les plus importantes de l'année, même peut-être la fête la plus importante de l'année. Ce sera une fête qui a comporté une semaine entière, du 9 Av jusqu'au 15 Av, comme Pessah, qui a 7 jours, et avec un jour du Yom Tov. En Israël, en France, il y a 2 jours. Mais en Israël, il y a un jour du Yom Tov au début de la fête et un jour à la fin de la fête. Et au milieu, il y a Chol HaMoed. Pas aussi le 9 Av, qui doit être la fête de la Géoula, ce sera en fin de compte la fête la plus importante de l'année, avec un jour du Yom Tov au début qui est le 9 Av, un jour du Yom Tov à la fin qui est le 15 Av, et au milieu, Chol HaMoed. Donc en fait, le 15 Av, ça doit être une fête importante qui a un rapport avec la Géoula. Alors, en fait, on ne bénéficie pas encore de cette fête de nos jours. Parce qu'on n'a pas encore la Géoula, malheureusement. On attend qu'elle arrive bientôt, Bekarov, Amen, Kenyatson. Mais cependant, la pnimiut de la fête est déjà présente. C'est-à-dire que le côté intérieur et spirituel de la fête est déjà présente. C'est-à-dire que c'est déjà une fête spirituelle qui est déjà existante dans les mondes célestes. Et on peut cependant en bénéficier même de nos jours. Alors on va expliquer d'abord à quoi consiste le 15 Av encore de nos jours. Alors le 15 Av, c'est en parallèle avec Tu Bishvat. Alors ceux qui s'en rappellent, on avait déjà dit un mois là-dessus avant Tu Bishvat, n'est-ce pas, donc il y a 6 mois. Alors on sait que Rosh Hashanah, on fête, n'est-ce pas, le nouvel an. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. On connaît son importance. Alors dans l'Agma, en fait, il y a une discussion de Marloquette. Est-ce que le monde a été créé à Rosh Hashanah ou alors Rosh Chodesh Nissan? Donc, est-ce que le monde a été créé le premier Tishré ou alors le premier Nissan? Et en fait, le Ran Rabbeinu Nissim explique qu'il ne s'agit pas de la création du monde, mais il s'agit de la création de Adam Harishon. Est-ce que Adam Harishon a été créé le premier Nissan ou alors le premier Tishré? Et en fait, les commentateurs Tosfot Rosh Hashanah, Daf Kaf Zayin, ainsi que l'Arizal, explique en fait les deux avis sont vrais. C'est-à-dire que bien que, comme dit Halakha, on tient compte, n'est-ce pas, de l'avis qui pense que donc le premier jour de la création de l'homme, c'est Rosh Hashanah, le premier Tishré, mais cependant, il s'agit de la création du monde et de l'être humain dans la pensée. C'est-à-dire que dans chaque chose, n'est-ce pas, on a la pensée, ainsi que la parole et l'action. Alors, Hachem a pensé créer le monde, créer donc en fait Adam Harishon, le premier Tishré, mais il a créé réellement le premier Nissan. Briat Haolam Bemarshava, Briat Haolam Bemaaseh. C'est-à-dire que quand Hachem a pensé créer, et quand Hachem il a réellement créé. Alors quand on parle de création, comme dit, c'est la création de Adam Harishon. Alors qu'en fait, le monde a été créé 6 jours auparavant. Donc en fait, ça nous donne le 25 Elul. Donc par rapport au premier Tishré, donc ça nous donne le 25 Elul, c'est le jour de la création du monde. D'après un avis, D'après notre avis, c'est le premier Nissan. Donc il nous donne le 25 Adar, 6 jours avant. C'est le 25 Adar, c'est le jour de la création, n'est-ce pas, du monde. Alors les deux sont vrais, création dans la pensée et création dans l'action. C'est-à-dire que Hachem a pensé créer le monde, donc le 25 Elul, et a pensé créer l'homme, le premier Tishré, a créé le monde le 25 Adar, et a créé l'homme le premier Nissan. En effet, n'est-ce pas, la pensée d'Hachem, tout d'abord, c'est une création réelle. La pensée d'Hachem, c'est pas qu'il a pensé, il a hésité, il s'est décidé, il est passé à l'action comme nous l'entendons. Mais lorsqu'il a pensé créer le monde et l'homme, en fait, il l'a créé. C'est-à-dire que la pensée d'Hachem, c'est déjà, n'est-ce pas, une création. Comme quand dit la Torah, Vayomer Elohim, Yehi Or. Hachem a dit, eh bien, que la lumière soit, on traduit en français, Yehi Or. Alors c'est faux de considérer que c'est comme si Hachem a donné un ordre, que la lumière soit, et donc la lumière a été créée. Donc c'est comme si il y a quelqu'un, un groupe, n'est-ce pas, une force qui a créé la lumière. C'est pas du tout ça. La parole d'Hachem, Yehi Or, la parole d'Hachem, les mots d'Hachem, Yehi Or, c'est ça la lumière. Quand Hachem a dit Yehi Or, ces paroles-là, eh bien, c'est la lumière. C'est ça l'essence même de la lumière. On parle aussi dans la pensée, quand Hachem pense créer l'homme et le monde, c'est déjà une création spirituelle, réelle, concrète. Mais cependant, il y a une phase différente dans l'action qui est en fait le fait d'assumer, d'achever, de terminer la création de l'homme et du monde dans sa perfection, dans sa totalité. Alors savoir exactement à quoi ça correspond par rapport à Hachem, il nous est évidemment difficile. Mais ce qui est important, c'est de savoir en quoi ça nous concerne, dans quel domaine ça nous concerne, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Mais auparavant, alors lorsqu'on parle de la création, on parle de la création, en fait, création réelle. Alors comme dit la Gemara, on parle de Arbaim Yom Lifne Yetzirat Havlad. C'est-à-dire que il y a ce qui s'appelle, dans la création de l'être humain, dans le ventre de sa mère, il y a la conception, et 40 jours après, c'est la création du fœtus. C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, 40 jours après la conception, c'est là qu'on considère que le fœtus, l'enfant, est déjà créé. Par exemple, ça a des conséquences halakhiques. Par exemple, si une femme, elle a fait une fausse couche, eh bien, si c'est pendant les 40 jours, ce n'est pas considéré comme déjà, n'est-ce pas, une fausse couche. Donc, c'est-à-dire que s'il y aura après un enfant, c'est celui qui sera le premier, n'est-ce pas, le bechor, avec toutes les halakhot que ça va engendrer. Si c'est après les 40 jours, c'est déjà une création, n'est-ce pas, de l'enfant. Et donc, si cette femme-là, elle a fait une fausse couche, automatiquement, eh bien, c'est cet enfant-là, le premier-né, donc c'est comme s'il est déjà né, et le prochain ne sera plus le bechor, plus le premier-né. C'est-à-dire qu'en fait, la création aussi de l'être humain dans le ventre de sa mère dure en effet 40 jours. Alors on a parlé aussi pour la création du monde. C'est vrai qu'il y a un grand parallèle entre le monde et l'être humain. L'homme est appelé Olam. Olam Pnimi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'un être humain, c'est aussi un monde en soi. Il a aussi un monde très riche, très intense dans sa personnalité. Olam Pnimi, il a un monde intérieur en lui, l'être humain. Alors quand on parle du monde, on parle aussi de l'être humain. Alors quand on parle de la création du monde, eh bien en fait, Hachem a pensé créer, donc on a dit Adam Arishon, le premier Tishri, mais il a donc pensé créer le monde le 25 Elul. Ça c'est la création du monde. Prenez 40 jours auparavant, ça vous donne exactement Tou B'Av, le 15 Av. Par aussi, 40 jours avant, le 25 Adar, ça vous donne Tou B'Shvat, le 15 Shvat. Donc en fait, ces journées-là, Tou B'Shvat et Tou B'Av, ça correspond en fait à la conception du monde. Et en fait, le tout début du monde commence à Tou B'Av. Puisqu'en effet, Hachem a pensé créer le monde le 25 Elul, 40 jours avant, nous donne Tou B'Av le 15 Av. Donc en fait, le tout début, n'est-ce pas, du monde commence Tou B'Av le 15 Av. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque chaque année, on se prépare à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, eh bien, il faut commencer le 15 Av, Tou B'Av. Alors, en quoi consiste cette préparation? On va expliquer brièvement. Alors, on sait, n'est-ce pas, que à Rosh Hashanah, eh bien, on se présente devant Hachem, et Hachem va nous juger. Bon, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, on est en train ici de bâtir, d'édifier, n'est-ce pas, l'année spirituelle à venir. C'est-à-dire que Hachem, chaque année, il est en train de renouveler le monde. Il fait le bilan de ce qui s'est passé du début à la fin de l'année. Quand un PDG qui voit à la fin de l'année, dans la société, qu'est-ce qui a été réalisé, quel personnel a rempli son rôle comme il faut, pour ensuite donner des rôles différents à chaque personne selon le travail qu'il a réalisé. Quelqu'un, eh bien, qui a su investir, n'est-ce pas, les fonds qu'on lui a mis entre ses mains, eh bien, on lui donnera une somme plus importante, puisqu'en effet, il fait un bon travail. Quelqu'un qui, au contraire, a fait un travail qui était plus ou moins passable ou moyen, eh bien, au contraire, on va lui donner, n'est-ce pas, un poste moins important, etc. C'est-à-dire que, à Rosh Hashanah, Hachem est en train de vérifier comment est-ce que son monde est en train d'agir, n'est-ce pas, de remplir les missions à bien, par rapport aux êtres humains, par rapport au monde entier. Il va nommer des postes différents à chacun. C'est pourquoi, en effet, on se prépare à Rosh Hashanah par les Slichot, par la Tshuva auparavant. Mais en fait, Rosh Hashanah, ça commence déjà, n'est-ce pas, le Tu Be'av, le 15 Av. C'est-à-dire qu'en fait, Rosh Hashanah, c'est un jour où Hachem, il vient renouveler son monde. Parce que c'est le jour où il a créé Adam Arishon, l'être humain. Alors, encore, il est sûr et certain que, bien que Hachem a créé le monde le 25 Elul, on ne fête pas ce jour-là comme une fête importante. Il est vrai que c'est un jour important, le Ben Israël, c'est un jour très important, faire attention à tout ce qu'on fait, ne pas s'énerver ce jour-là, le 25 Elul, parce que c'est le jour de la création du monde, et Hachem renouvelle son monde. Mais, sûr et certain que l'essentiel, c'est le premier Tishré, qui est la création de Adam et Rishon, la création de l'homme, de l'être humain. Parce que c'est là, pourquoi? Parce que c'est l'être humain, c'est la finalité du monde entier, et lorsque Hachem veut renouveler son monde, eh bien, l'essentiel du monde, c'est l'être humain. Et lorsqu'Hachem vient renouveler son monde, donner de nouveau des postes différents, va décréter tout ce qui va se passer du début à la fin de l'année, il est en train de vérifier de quelle façon tu as rempli ton rôle pendant l'année passée. Lorsqu'il renouvelle, n'est-ce pas, son monde, eh bien il va aussi renouveler l'être humain. C'est-à-dire qu'il va donner des postes différents à chaque personne, et donc des ustensiles, des forces, des capacités, et plus ou moins petite ou grande ou moyenne, à chaque personne dans tous les domaines. Toutes les finances, la santé, n'est-ce pas, les maladies, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, vont être décrétées le jour de Rosh Hashanah. Donc en fait, Rosh Hashanah, c'est un jour où une personne peut renouveler sa personnalité de A à Z, de fond en comble. On peut réellement se transformer, se métamorphoser. Parce que c'est là où Hachem a créé l'être humain. Et Hachem, il crée encore une fois l'être humain chaque année, le jour de Rosh Hashanah. Il va comme renouveler ton identité morale, spirituelle, ce jour-là, à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, n'est-ce pas, d'être transformé ce jour-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on prend, n'est-ce pas, on trempe la pomme dans le miel le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le miel a telle caractéristique que n'importe quel aliment que tu mets dans le miel, si tu laisses pendant quelques mois, il va être transformé en miel. Mets une pomme ou un autre aliment dans le miel, enfermé dans un bocal, pendant quelques mois, tu auras après que du miel. Parce que ce miel, il transforme n'importe quel aliment en miel. Pour dire que ce jour de Rosh Hashanah, eh bien, il peut te métamorphoser de fond en comble, de A à Z. C'est un jour où on peut, si on veut, se renouveler. C'est là où on reçoit une influence divine qui peut nous renouveler, n'est-ce pas, de fond en comble. Mais en fait, ce renouvellement, il commence ses prémices, son commencement, eh bien, c'est le jour du 15 Av. Parce que là, c'est la conception du monde, la conception, n'est-ce pas, de l'univers de Adam Arishon. Le 15 Av, comme en effet, quand, n'est-ce pas, un fœtus est créé dans le ventre de sa mère, eh bien, c'est après 40 jours après la conception, par aussi, eh bien, le monde, il commence le 15 Av. Alors, ça veut dire quoi? Il est sûr et certain que Rosh Hashanah reste le jour le plus important parce que c'est là où va se réaliser le renouvellement réel de la création de l'être humain. Mais ça commence le 15 Av. Et comme dit, ça commence, c'est une création par rapport à la pensée de l'être humain. Comme Hachem a pensé créer le monde et l'homme dans cette période-là, eh bien, encore une fois, ça recommence chaque année. C'est-à-dire que on peut réaliser le renouvellement de notre pensée, notre idéologie, notre conception à partir du 15 av. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors sachez que sans s'en rendre compte, eh bien, notre façon d'agir et de réagir et de parler dans le monde, eh bien, elle dépend de la conception que nous avons du monde et des êtres humains. C'est-à-dire que tu vois le monde d'une telle façon et tu vas ensuite agir et parler en conséquence de la vision que tu as sur le monde. Par exemple, il y a des gens, eh bien, qu'à peine ils se sont réveillés, ils se mettent à houspéter, à râler le matin au soir. Et bien, le contraire, eh bien, ils sont gays, ils sont heureux, ils sont de bonne humeur, ils vont, n'est-ce pas, lancer des blagues, plaisanteries, à droite et à gauche. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre? C'est-à-dire que le même événement, eh bien, va faire rigoler, faire pleurer l'autre. On avait raconté l'histoire de deux frères jumeaux qui étaient sur une plage. Et tout d'un coup, n'est-ce pas, il y a une vague qui les a submergés tous les deux. Et l'un d'eux a éclaté de rire et s'est accouru vers les vagues. Et son frère jumeau a éclaté en sanglots et a réclamé sa mère. Alors qu'est-ce qui a fait, n'est-ce pas, que l'un a pleuré et l'autre a rigolé? C'est pas la vague. Parce que si la vague elle fait pleurer, les deux auraient dû pleurer. Donc en fait, la vague ne fait ni pleurer ni rire. Ce qui va faire pleurer ou rire, c'est la façon dont chaque personne va communiquer avec son cerveau, avec son subconscient. Quel message tu vas envoyer, n'est-ce pas, à ton esprit par rapport à tel événement? Ça dépend uniquement de toi. On avait dit aussi, si on te demande de te rappeler de quelque chose et tu l'as oublié. Alors quand tu dis, oh j'oublie toujours quelle tête de mule, eh bien tu es en train d'envoyer à cet instant un message à ton cerveau d'oublier encore plus, eh bien, cette connaissance que tu voulais te rappeler. Alors que si tu te dis, un instant je vais me rappeler, il faut que je me rappelle absolument, tu envoies un message à ton cerveau de puiser en effet, eh bien, cette connaissance du fin fond de ton esprit. C'est pas sûr que ça marche dans tous les cas, mais il y a plus de chances, n'est-ce pas, tu es en train de réunir toutes les capacités que tu as pour te rappeler de telles choses. Donc en fait, n'est-ce pas, chaque personne a une façon de voir le monde, d'une façon positive ou négative, ou alors moyenne, ou les deux ensemble, etc. Donc en fait, un même événement, il peut être interprété d'une façon différente par deux personnes, ou alors d'une façon différente par la même personne. Ça dépend de ton humeur. Des fois, quand tu es fatigué et tu es énervé auparavant, tu vas automatiquement interpréter un événement d'une façon négative. Si au contraire tu es de bonne humeur, eh bien, tu vas bien prendre les choses. Si par exemple, tu reviens, n'est-ce pas, d'une salle de fête, d'un mariage, tu as passé une belle soirée, évidemment, tu ne vas pas t'énerver vite. Si quelqu'un te dérange, eh bien, tu pourras être tolérant, indulgent. Si au contraire, tu es déjà, n'est-ce pas, de mauvaise humeur, parce que tu as perdu une grosse somme d'argent, ou alors parce que quelqu'un t'a déjà insulté, alors évidemment, il y a plus de chances que tu réagisses mal par rapport à tel événement. Ça dépend, n'est-ce pas, d'une situation donnée dans laquelle tu es. En fait, plus élevé que cela, plus profond que cela, ça dépend de ta décision. Ça peut dépendre de ta décision. Si on prend la ferme résolution d'interpréter tout ce qui se passe de façon positive, avec un bon œil, c'est-à-dire que tu décides, eh bien, d'enlever tes lunettes noires et de porter des lunettes de couleur rose. Alors évidemment, il y a plus de chances que tu vas diriger l'interprétation des événements, tu vas diriger ta conception, ton idéologie du monde et de ce qui se passe de façon positive. Encore une fois, c'est pas sûr que ça marche. Il y a évidemment certains événements qui sont plus portés à être interprétés de façon positive ou négative, mais cependant, tu es en train d'emprunter un chemin que tu as choisi. Ça dépend de toi, presque uniquement que de toi. Même un événement tragique, dramatique, eh bien, on peut dramatiser ou alors on peut dédramatiser. Un événement aussi agréable, on peut en faire vraiment une fête ou alors on peut le faire passer, n'est-ce pas, comme ça, sans trop exagérer. Ça dépend uniquement de sa décision personnelle. Donc en fait, la façon, n'est-ce pas, d'interpréter le monde, elle dépend de nous essentiellement. Et ce jour-là, Tu Béhav, eh bien, c'est pour nous une façon de renouveler, encore une fois, notre façon de voir le monde. Tu as l'occasion, tu arrives à la croisée des chemins, tu peux prendre, n'est-ce pas, à droite ou à gauche ou devant, faire marche arrière. Tu as l'occasion de changer de direction ce jour-là. Tu prends un train, tu prends un avion dans telle ou telle direction. C'est-à-dire que tu peux décider à partir d'aujourd'hui, eh bien, je vais regarder le monde d'une façon différente. Alors, il est évident, on peut le faire tous les jours de l'année, chaque instant. Mais il y a des instants qui sont plus propices à cela. Comme on sait que Rosh Chodesh, eh bien, tu peux prendre une nouvelle direction pour le mois à venir. Rosh Hashana, tu prends une nouvelle direction pour l'année à venir. Alors, prendre une direction nouvelle, ça veut dire quoi? Bien qu'en fait, tout décret, on peut le transformer chaque jour de l'année, sûr et certain. Mais cependant, il y a certaines normes qu'on doit respecter. Comme par exemple, si on te dit, voilà, ce jour-là, tu vas prendre un avion, tu prends une fusée, et tu vas te diriger vers une planète. Tu choisis dans l'univers la planète sur laquelle tu veux atterrir. Une fois que tu atterris sur la planète, tu vas être coincé là-bas pendant une année entière, jusqu'à Rosh Hashanah l'année prochaine. Alors tu pourras, pendant l'année, faire des déplacements, mais uniquement de ville en ville dans la planète sur laquelle tu auras atterri. Si tu veux changer de planète, tu devras attendre une année entière. Alors en fait, ça commence non pas à Rosh Hashanah, mais ça commence à Tou B'Av. Le 15 Av, tu es en train de décider de quelle façon tu vas regarder le monde. Quelles lunettes tu es en train d'emprunter? Est-ce que des lunettes noires ou des lunettes roses? Quelle est ta conception du monde dorénavant? Est-ce que tu vas décider de rigoler ou de pleurer lorsque tu vas être submergé par une vague, lorsque tu vas te prendre la tasse? Quand on va t'insulter, on va te déranger, te perturber, quelle va être ta réaction toute l'année? Ça dépend uniquement de toi. Alors évidemment, on peut toujours te transformer, mais on prend des directions, des grandes directions. Et on a certains pôles, certaines stations dans l'année qui sont le 15 Av, aussi Tu Bishvat, là c'est dans l'action, c'est un autre domaine. Rosh Hashanah, on a Rosh Chodesh. Chaque fête, chaque jour, avec, n'est-ce pas, l'essence de la journée qui lui convient. C'est-à-dire que à partir du 15 Av, eh bien, on peut commencer à réfléchir de nouveau à notre façon de voir, d'analyser le monde et la société. Prenons un autre exemple. Eh bien, de nos jours, n'est-ce pas, malheureusement, on est beaucoup habitué, n'est-ce pas, à laisser sa langue parler à tort à travers, et bien souvent en se mettant à critiquer à tort et à travers. C'est-à-dire qu'en fait, la critique n'est pas la parole facile, eh bien, elle commence pas par la parole, elle commence par la façon de voir les choses. Quand tu vois quelqu'un, tu vois quelque chose, est-ce que tu vois, n'est-ce pas, tout de suite son défaut? Est-ce que tu vas tout de suite l'analyser avec une critique? Ou alors au contraire, tu vas faire attention à ses qualités, à ses valeurs. Ça aussi, ça ne dépend que de toi. C'est une habitude, c'est une initiation. Là aussi, on peut transformer notre vie en décidant de ne pas faire attention aux défauts, mais faire attention au contraire aux qualités, aux vertus de chaque personne. Pourquoi est-ce qu'en effet, on se met à critiquer à droite et à gauche? Parce qu'on a vu la critique. Parce qu'automatiquement, on est, bicorti. Bicorti, ça va, un esprit critique bien développé. Alors, c'est quelque chose qu'on peut développer d'une façon ou d'une autre. Comme par exemple, quelqu'un qui est aveugle, eh bien, il aura le sens du toucher très développé, pas aussi pour lui, sera très développé chez lui. Alors en fait, cela, n'importe quelle personne parmi nous peut le faire. On peut tous développer, n'est-ce pas, ses sens. Mais on ne fait pas tellement parce qu'on a une façon plus facile de communiquer qui est la vision. On voit quelqu'un, on voit le monde, c'est plus facile de communiquer, donc c'est pas la peine de développer, n'est-ce pas, le sens du toucher, ainsi que lui, comme ces gens qui sont aveugles. Mais en fait, on peut développer chaque sens d'une façon plus ou moins intensive. Par aussi, pour la façon de voir le monde, est-ce qu'on va faire attention aux qualités ou aux défauts de chacun? Ça va dépendre uniquement de notre décision. On peut les développer, on peut même exagérer en s'habituant à avoir une critique sur le monde, ou alors au contraire, ou en trouvant, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les circonstances atténuantes pour justifier quelqu'un. C'est pourquoi la Torah nous demande, c'est-à-dire, la doun nekavzerkut. On te demande, quand tu vois quelqu'un, tu vois une situation, de la juger de façon favorable. Bien que le jugement, c'est automatique. J'ai vu une scène, j'étais spectateur, j'ai vu quelque chose, quelqu'un, automatiquement, j'ai porté un jugement. Comment est-ce que la Torah me dit, la doun, les kavzechout, eh bien, analyse de façon positive et favorable. Bien que le jugement est spontané, mais je peux faire un effort pour l'expliquer autrement. Pour justifier la personne qui a fauté, qui a flanché, je peux, n'est-ce pas, lui trouver des raisons de l'agir de façon positive. Et lorsque je vais m'obliger à le faire, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, automatiquement, après quelques mois, il y a un déclic qui se fait dans ma conception, dans ma façon d'analyser, d'interpréter les événements. Je vais dorénavant, après quelques mois, regarder le monde d'une façon plutôt positive. J'ai transformé, n'est-ce pas, mon jugement, même dans l'inconscient, sans s'en rendre compte. Et c'est une façon différente de voir le monde. On peut le faire toute l'année, mais à tout gave le 15 av, c'est une occasion propice de recommencer à nouveau, de se renouveler, de s'habituer à juger le monde de façon favorable et positive. C'est sûr et certain, n'est-ce pas, que le jugement favorable doit être dans les limites de la Torah, en effet. Parce qu'en effet, bon, sinon, elle a d'avoir sauf dans les limites de la Torah, tout à fait vrai. Et d'ailleurs, il faut absolument se fier aux limites de la Torah, et non pas, n'est-ce pas, aux limites de l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est la Torah qui, elle, va nous dévoiler quelles sont les réelles limites. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif. Parce que c'est la Torah, donc c'est Hachem qui a créé l'homme et la Torah et qui connaît l'homme et qui nous a dit voilà la condition, n'est-ce pas, la plus positive et idéale de se conduire. Voilà, n'est-ce pas, la perfection de l'être humain. Et on doit, n'est-ce pas, en effet, la respecter pour arriver à cette perfection. C'est-à-dire que, parce qu'en effet, l'homme, il est faillible. Et l'homme a montré qu'il est faillible pendant des millénaires. Et on ne peut pas se fier, n'est-ce pas, à la morale de l'être humain. C'est pourquoi on doit absolument se fier à la morale de la Torah. Mais cependant, pas, même lorsque on peut condamner une situation donnée, on peut condamner une conduite, parce qu'on est sûr et certain que la personne, elle avait tort. Elle a fait, n'est-ce pas, une avéra qui est grave, une conduite qui était mauvaise. Mais cependant, on peut toujours juger la personne de façon favorable. C'est-à-dire que si on condamne l'action en soi, mais cependant, on peut porter un jugement favorable sur la personne. Tout d'abord parce que la personne ne se rend pas compte de la gravité de la chose qu'elle a réalisée. Deuxièmement, n'est-ce pas, c'est une question d'éducation, qui sont un tempérament, etc. Comme on a dit la semaine dernière, on dit Sfatemet, sur la Mishnah, les Altadun et Travercha, Hachitegenukumo. Dit la Mishnah dans la vote, ne juge pas ton camarade jusqu'à ce que tu sois dans la même situation. On dit le Sfatemet, et jamais tu ne seras dans telle situation. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est très difficile qu'on ait des situations qui sont tout à fait semblables. Deuxièmement, même si c'est le cas, qu'on a deux situations identiques, il y a toujours une différence de caractère, de tempérament, de mazal, d'éducation, de famille entre deux personnes qui ont fait que telle personne, elle a agi d'une telle façon et va savoir peut-être que toi, dans la même situation, eh bien, tu aurais fait pire. C'est pourquoi on ne peut pas porter un jugement qui est négatif. Cependant, il faut être prudent. Il ne s'agit pas de justifier telle ou telle action. Il faut aussi ne pas croire, comme le prétendent certains psychologues, que l'être humain est obligé, de par son tempérament et ses instincts, d'agir d'une telle ou telle façon. Parce que prétendre cela, eh bien, c'est renier le libre arbitre. C'est renier que l'être humain, il a comme le choix, n'est-ce pas, d'agir de façon positive ou négative, comme s'il était obligé par ses instincts. C'est rabaisser l'être humain à l'état animal. Dire que l'être humain est obligé et contraint par son instinct, ses passions, ses pulsions d'agir de telle ou telle façon, c'est transformer l'être humain en animal. Dire que l'homme descend du singe, ou cela c'est pareil. Parce qu'en effet, n'est-ce pas, des fois on veut se passer de la maîtrise de soi, se passer d'efforts, on dit non, il n'y a pas le choix. On descend du singe, on a des instincts, des pulsions, on est tous des singes, des animaux, alors bon, fais ce que tu veux, c'est ce que tu ressens qui est l'essentiel. Et si tu ne le fais pas, eh bien, c'est ce qu'on appelle le refoulement. Tu vas refouler, n'est-ce pas, une pulsion, une sensation, un instinct qui n'a pas été satisfait, et c'est encore pire. Ça, c'est une chose qui est très grave de considérer pour l'être humain. Non seulement c'est anti-Torah, mais c'est inhumain. C'est anti-humain. Pourquoi ? Parce que c'est rabaisser l'être humain à l'état d'animal. Comme un animal a des instincts, des pulsions, qui ne peut pas contrôler, maîtriser. Un animal n'a pas cette possibilité de maîtriser son instinct. Dès qu'il a une pulsion, il faut qu'il la satisfaire, qu'il la remplisse. Si ce n'est pas le cas, eh bien il sera mal en point, il sera mal à l'aise. Alors que l'être humain, il a ce qu'on appelle Koach HaBechira. Il a ce choix, ce libre arbitre, le fait de pouvoir choisir, de pouvoir se maîtriser, de pouvoir s'élever au-delà de tout instinct. L'être humain peut en effet défier les lois de l'humain et de l'univers en se maîtrisant, évidemment, de façon dirigée, programmée, comme la Torah, n'est-ce pas, nous le dirige, mais un être humain peut se dominer, peut se maîtriser. Donc n'est-ce pas, il faut pas considérer que l'être humain est obligé par ses passions d'agir comme c'est tout cela, mais au contraire, qu'un être humain peut maîtriser n'importe quelle situation. Mais cependant, lorsque j'ai vu que quelqu'un, n'est-ce pas, a agi d'une façon qui était mauvaise, on peut toujours trouver, n'est-ce pas, des raisons de comprendre sa conduite. Pour ne pas porter sur lui un jugement négatif, mais un jugement positif, toujours est-il évidemment, selon les normes et les directives, la halakhot de la Torah, par rapport au jugement. Mais toujours est-il que, en fait, dans ces conditions-là, la Torah nous enseigne que tu peux prendre des lunettes qui sont noires ou qui sont roses, ça dépend que de toi. Est-ce que tu vas considérer que l'homme agit de façon négative ou positive? Ça dépend uniquement de toi. Alors, je répète, c'est que ça, on peut le faire toute la nuit. Mais quand le 15 av arrive, c'est une occasion pour se renouveler. Alors, concrètement, il faut essayer de prendre le temps pour faire un bilan par rapport à sa façon de réfléchir par rapport au monde et à la société. Parce qu'en effet, ce qu'on pense du monde et de sa famille et de ses camarades, c'est automatique, c'est spontané, c'est même dans le domaine du subconscient. C'est-à-dire qu'en général, on ne se rend même pas compte qu'on a porté un jugement qui va être positif ou négatif, mais on est sûr et certain que c'est là l'état des choses, c'est la situation qui est donnée. Alors qu'en fait, ça dépend uniquement de ta façon d'interpréter tel événement ou telle situation. Alors il faut d'abord, n'est-ce pas, prendre du recul par rapport à notre façon d'analyser le monde et les situations et les êtres humains. Et se rendre compte qu'on est habitué à analyser le monde et les événements d'une telle ou telle façon. Et ensuite, n'est-ce pas, essayer de transformer petit à petit sa façon de gérer le monde et les êtres humains, non pas de façon négative, mais de façon positive. On va donner encore un dernier exemple. On a aussi une façon d'analyser les événements du monde. C'est-à-dire qu'en général, eh bien, on est persuadé que le monde est dirigé par les hommes politiques et par les politiques différentes de différents pays. Et ce sont eux, n'est-ce pas, qui dirigent le monde et les événements. Alors que dans ce domaine-là aussi, on peut transformer notre façon de réfléchir. Parce qu'en effet, la Torah nous enseigne, la Torah, la Gemara, le Rambam, le Hilchot, que lorsque un événement arrive, eh bien il y a toujours une raison spirituelle qui l'a précédé. C'est-à-dire que un décret, bon ou mauvais, qui arrive sur terre, il a toujours été précédé par un décret au ciel. On va prendre un exemple très simple dans ce domaine-là. Un exemple de la Torah. Alors bien qu'on est loin de la fête de Pourim, même comme ça que dans la Torah, la notion de temps, alors l'être humain dépasse le temps, donc toutes les fêtes concernent toute l'année. Alors, dans la fête de Pourim, Haman a décrété de mettre tous les juifs à mort, n'est-ce pas, en un seul jour. Donc, Haman nous raconte que Mordechai Yehudi n'était pas impressionné par ce que Haman prétendait. Et Mordechai, il a rencontré une fois Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, dis-moi, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui se passe au ciel? Est-ce qu'au ciel, il y a en effet un décret d'anéantir le peuple juif ou pas? Si un décret, alors en effet, on doit prendre peur et faire tchouva et faire ce qu'il faut pour annuler ce décret. Mais si au ciel, il n'y a aucun décret divin, alors Achashverosh et Haman, ils sont en train de baratiner, et c'est pas la peine d'être impressionné, parce que la veille du décret, ils ont une crise cardiaque, ou alors un autre événement va annuler le décret, et point final. C'est-à-dire que Mordechai a bien compris qu'un décret sur terre provient auparavant d'un décret au ciel, oui ou non, ce qu'il faut vérifier, et agir en conséquence. Et Eliyahu HaNavi lui a dit, en effet, il y a un grand décret au ciel d'anéantir tout un Israël. C'est-à-dire bien qu'on a une promesse que un Israël ne sera jamais anéanti, mais il était question de laisser la reine Esther en vie, toute seule, et de faire donner naissance à un nouveau Israël à partir de Esther Amalka. Et là, lorsque Mordechai a entendu de la Navi qu'il y a un décret divin d'anéantir Israël, il a pris peur. Et là, il a réuni tous les enfants de Shushan, 22 000 enfants au total, et il a avec eux étudié la Torah, fait les tfilot des Tehillim, et il a envoyé Esther chez le roi pour demander, n'est-ce pas, en effet, pour essayer d'annuler ce décret. Et bon, Esther a envoyé 3 jours de jeûne à réaliser dans tout Israël, comme vous connaissez l'histoire, etc. C'est-à-dire que Mordechai a bien compris que lorsqu'il y a un décret qui a été déclaré par Haman, s'il n'y a pas de décret au ciel, alors ça ne veut rien dire, c'est du vent. Quelques heures avant, quelques jours avant, ça va être annulé pour telle ou telle raison. Mais s'il y a un décret divin au ciel, il faut prendre peur. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque certaines avérotes ont été accomplies, comme le cas de Haman et Mordechai, 9 années auparavant, eh bien, 3 avérotes qui ont été commises. Les Bnei Israël sont prosternés à l'idole. Deuxièmement, ils ont participé au festin d'Achashverosh. Troisièmement, ils ont assisté lorsque Achashverosh avait utilisé les ustensiles, n'est-ce pas, du Beth Amikdash, et n'ont pas protesté. 3 avérotes, d'après les avis différents, pour lesquels le décret d'Haman a été déclenché au ciel. C'est-à-dire que lorsque la avéra est commise sur terre, cette avéra, elle monte au ciel. Et elle va engendrer au ciel un décret divin. C'est-à-dire au ciel, ça fait boum, ça fait un bouleversement. À cause de la faute qui a été commise par une personne ou alors par un peuple entier, encore pire, eh bien on va déclarer qu'il y aura un attentat, une bombe, etc. tel jour, sur tel pays, telle personne. Une fois que le décret divin a été déclaré au ciel, on va chercher un cobaye sur terre qui peut être Paro, ou alors Esav, ou Haman, ou Hitler, ou alors Arafat, etc. Ce sont des cobayes qui, eux, choisissent de véhiculer le décret divin sur terre. Si on trouve personne comme cobaye, alors il y a des animaux, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre. Hachem, il a 36 façons d'envoyer, de véhiculer un décret divin. Et il le fait spécifiquement de façon qui est très cachée, très dissimulée, par les êtres humains ou par les événements de la nature, pour que les êtres humains pensent que c'est uniquement par hasard. La terre a tremblé, il y a un volcan, tout d'un coup, n'est-ce pas, il y a cet homme politique qui a décidé telle ou telle chose dans tel pays. On a décidé de renvoyer les juifs, n'est-ce pas, d'Espagne. Ce décret divin, eh bien, est envoyé sur terre. C'est jamais un roi, un empereur, un président ou un ministre qui déclare sur terre avant que le décret n'a été déclaré au ciel. Comme dit le verset dans Michelet, « Lev melachim vesarim biad Hashem » Le cœur des rois et des ministres, eh bien, il est entre les mains d'Hashem. Hashem va décider, est-ce que ce ministre président va décider tel décret, bon ou mauvais ou pas. Il est sûr et certain qu'on doit aussi agir avec une certaine stratégie militaire, politique, pour agir en conséquence. C'est vrai, mais c'est une action qui est secondaire. La première chose à faire, c'est essayer d'annuler le décret par la Torah, les mitzvot, la tshuva, comme l'ont fait Mordechai et Esther. Tout d'abord, n'est-ce pas, ils ont fait tshuva. Tout d'abord, 3 jours de jeûne et de tfila et de tshuva dans tout Israël. Et ensuite, n'est-ce pas, ils ont fait la guerre contre les ennemis. Il faut aussi faire la guerre, ce serait certain. Mais la guerre, c'est secondaire. Il faut d'abord que la tshuva soit réalisée pour annuler le décret divin au ciel. Là encore une fois, c'est pour nous une façon d'analyser le monde, les événements. Et là aussi, n'est-ce pas, on peut, à partir de Tu B'Av, le 15 Av, changer de conception. On peut, dorénavant, adopter la conception de la Torah. Changer d'idéologie, bien comprendre que ce ne sont pas les hommes politiques qui dirigent le monde, mais ce sont les décrets divins qui vont dépendre uniquement de nos actions, nos pensées, nos paroles, donc de notre niveau spirituel. Le niveau spirituel de chaque personne, le niveau spirituel de Am Israël dans le monde entier, eh bien c'est lui, n'est-ce pas, qui va monter au ciel et déclencher des décrets divins qui vont ensuite, n'est-ce pas, qui vont rebondir sur terre pour déclencher un décret sur terre par tel ou tel homme politique. analyser chaque événement pour savoir à cause de quelle faute ça a été réalisé, c'est très difficile, en effet. C'est en effet, nos grands sages ont su interpréter et comprendre que le décret de Haman était à cause des fautes de l'idolâtrie et du festin d'Achashverosh et des ustensiles de l'Amigdash. C'est vrai, en effet. Eux ont pu le savoir. Pour eux, c'est très difficile de comprendre, de savoir pour quelle ou quelle faute a eu tel décret. En général, on ne doit pas trop se casser la tête là-dessus. Le laisser au Gdolé Israël, au Grand Israël, de se prononcer. Et pas toujours, il se prononce. Mais toujours est-il, sans savoir pour quelle faute exactement ça s'est passé. La tchouva, on peut toujours la faire. Alors, des fois, on peut savoir plus ou moins, là on est déficient. Et en général, il faut savoir que Hachem, n'importe quel problème qu'il nous amène, eh bien, il amène ça pour nous pousser, inciter à la tchouva. Alors, Hachem ne cherche pas la petite bête et ne va pas nous laisser dans l'impasse totale. En général, on peut plus ou moins savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Sinon, on peut demander conseil à droite à gauche au Gdolé Israël. Mais de toute façon, si on fait tchouva en général, on peut y arriver. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que la tchouva générale, ainsi que la progression, l'amélioration de certaines mitzvot, eh bien, va toujours remédier d'une façon ou d'une autre. Mais le point essentiel encore est pas là. Le point essentiel, c'est de bien comprendre que lorsqu'il y a un problème dans la vie, quand il y a un décret sur le monde, quand il y a un événement, un fait divers grave, comme un tremblement de terre ou un volcan, etc., il faut l'analyser avec une optique différente. Non pas que c'est la terre qui a tremblé uniquement, mais qu'il y a ici un problème spirituel divin, un décret divin qui a été envoyé sur terre. Et là aussi, c'est une façon différente parce qu'il faut changer de lunettes. Alors on peut le faire toute l'année, mais encore une fois, comme à Tou B'Av, on renouvelle le monde. C'est la conception du monde entier de l'être humain. Donc si on veut recommencer à zéro, si on veut changer, n'est-ce pas, notre façon de regarder, de voir le monde, eh bien, c'est le plus facile de le saisir à la base. Le 15 Av, c'est un jour où il n'y a pas de Tachanoun, c'est un jour très élevé, spirituel, c'est un jour, c'est écrit, il faut faire de cela une fête, une grande simcha ce jour-là. C'est écrit, ce jour-là, notre âme peut atteindre des niveaux qui la dépassent. On peut comme emprunter un habit spirituel qui dépasse notre niveau spirituel. On peut se conduire ce jour-là au-delà de nos capacités morales et spirituelles. Bien que ce n'est pas une acquisition personnelle, on est en train d'emprunter, n'est-ce pas, un niveau spirituel qui nous dépasse, mais ça peut être une bonne chose, n'est-ce pas, pour recommencer à zéro, pour renouveler notre service d'Hachem, pour renouveler notre façon de faire la Torah et les mitzvot et la tfila, non pas de façon, n'est-ce pas, habituelle, avec la routine, le train-train habituel, mais recommencer à zéro avec une perspective plus élevée, avec une optique plus spirituelle. Bien comprendre que ce n'est pas le monde politique et terrestre et matériel qui nous dirige, mais c'est le monde spirituel. Est-ce que, un homme, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est réellement? Ça dépend uniquement de ses valeurs morales et spirituelles. Qu'est-ce qui va définir un être humain? C'est pas, n'est-ce pas, le compte en banque qu'il a, même pas son état de santé, mais plutôt quelles sont ses valeurs spirituelles et morales. Quelle est sa conception du monde? Quelle est son idéologie du monde, de la société, de l'être humain? C'est ce qui va te définir réellement. Et cela, on peut faire un bilan et se renouveler, recommencer à zéro à partir de Tou B'Av du 15 Av. Alors bien que le jour du 15 Av, c'est un jour qui est très propice, mais en fait, les 40 jours qui le suivent sont propices à cela. Comme pas un enfant, le fœtus, il est en train d'être créé pendant les 40 jours qui suivent la conception, pareil aussi, nous aussi, on est en train de nous créer pendant ces 40 jours-là. Du 15 Av jusqu'au 25 Elul, on est en train de nous bâtir, encore une fois, notre structure spirituelle, avec laquelle on va se présenter devant Hachem, donc le 25 Elul, qui est le jour de la création du monde, et Rosh Hashanah, qui est le jour de la création de Adam Rishon. Et bien qu'Hachem nous aide, n'est-ce pas, à nous revenir à exploiter ces journées de Tou B'Av au maximum. Amen.